en ce 23 mai, c'est la fête, comme je vous l'ai annoncé hier et avant-hier, Saint-Jean-Baptiste de Rossi, ou Giovanni Battista de Rossi. C'est un prêtre séculier qui a vécu plutôt à Rome. Il venait de la région de Gênes, dans le nord. Et c'était un grand serviteur des pauvres, un homme absolument exceptionnel et qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Et à cause de ça, n'a pas pu faire les études qu'il aurait voulu, mais il a réussi à faire de sa vie quelque chose d'exceptionnel. Par amour, tout simplement. Rien de spécial à part ça. Il est mort en 1764. C'est une émission que je voudrais dédier à tous nos prêtres. Parce que comme dit le Saint-Curé, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, comme dit le Saint-Curé d'Ars, oh, que le prêtre est quelque chose de grand. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Les bienfaits de Dieu ne nous serviraient de rien sans le prêtre. Savez-vous combien il y a de prêtres dans le monde et d'évêques? Et on ne sait pas ça souvent, hein? Le nombre des évêques est d'environ, disons, grosso modo, 4200. Celui des prêtres, les prêtres séculiers ou diocésains, comme on dit, et les prêtres religieux, ceux qui appartiennent à des congrégations ou des ordres religieux, demeurent pratiquement stables, un peu plus de 400 000 dans le monde entier. Mais le nombre des religieux prêtres est en nette diminution dans le monde. Il y a moins de vocations religieuses. La Pologne est le pays qui a le plus d'ordinations de prêtres diocésains, de prêtres pour les diocèses, les paroisses, etc. Environ 700 par année. Et l'Italie en a 500, comme les États-Unis d'ailleurs, 500 à peu près par année. Le Mexique, le Brésil, 350 par année. L'Inde, ça peut vous surprendre, 300. Par contre, le nombre total des religieuses est d'environ un peu plus de 800 000, et celui des religieux laïcs, là, c'est-à-dire des frères, ceux qui ne sont pas prêtres, 60 000 environ. Ça peut vous donner une idée au début de cette émission. Avant de vous raconter la vie de Saint Jean-Baptiste de Rossi, j'aimerais vous lire ce que... dans une lettre d'amour au prêtre, Catherine de Hueck-Doherty, qui a fondé à Cumbermere, en Ontario, un centre de retraite, de méditation et, je dirais, d'ouverture sur l'essentiel, qui est très important au Canada anglais, elle a écrit ce qui suit. C'est une Russe. Puis la baronne, en fait, Catherine de Hueck, qui a épousé M. Doherty, qui est mort prêtre et remarquable. Le cœur du prêtre, comme celui du Christ, est ouvert pour que le monde entier puisse y être accueilli. Le cœur du prêtre est un vase de compassion. Le cœur du prêtre est un calice d'amour. Le cœur du prêtre est le rendez-vous de l'amour de Dieu et des hommes. Le prêtre est un homme qui cherche à devenir un autre Christ. Le prêtre est un homme qui vit pour servir. Le prêtre est un homme qui s'est crucifié lui-même afin de pouvoir lui aussi être élevé, tout attiré au Christ. Le prêtre est un homme en amour avec Dieu. Le prêtre est un don de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Le prêtre est le symbole du Verbe fait chair. Le prêtre est le glaive de la justice divine. Le prêtre est la main de miséricorde de Dieu. Voici maintenant cette vie de Saint Jean-Baptiste de Rossi, ce prêtre admirable que j'aime beaucoup. Giovanni Battista di Rossi est né à Voltaggio, une petite ville, comme je vous ai dit tout à l'heure, du diocèse de Gênes, c'est donc dans le nord, sur la Méditerranée. Il est né le 22 février 1698, il y aura donc 300 ans bientôt, dans quelques mois, un peu moins d'un an. Ses parents sont pauvres, mais ce sont des gens remarquables. Ils sont surtout très bons. Au cours de son enfance, Jean-Baptiste, petit garçon, se fait remarquer par sa piété. C'est un enfant porté à être très pieux, qui aime servir la messe, qui aime aller à l'église, qui aime assister, ça existait dans le temps, les vêpres, des offices, des processions. Il aimait ça. Or, un Génois, un noble qui vient de Gênes et qui est de passage à Voltaggio, sa petite ville, est si édifié par son attitude en le voyant servir la messe qu'il propose à M. Di Rossi, son père, de se charger de son éducation. Alors le petit Jean-Baptiste va donc à Gênes en qualité de page dans cette famille noble. Un page, vous savez tout ce que c'est, on en voit à la télévision quand on regarde ce qui se passe à Ottawa, au Parlement, il y a des pages qui sont assis là. On les appelle des pages. En fait, ce sont des jeunes garçons, des jeunes hommes, qui étaient placés dans ce temps-là auprès d'un homme puissant, d'un noble et d'un homme riche, pour faire le service d'honneur, simplement, mais aussi, dans bien des cas, pour apprendre à manipuler les armes. Il est tout jeune quand il est là, il n'a pas dû manipuler beaucoup d'armes, parce qu'il a été appelé assez tôt à Rome par son cousin, qui était chanoine, le chanoine Lorenzo ou Laurent de Rossi. Il était son cousin chanoine de Sainte-Marie in Cosmedine, ou Santa Maria in Cosmedine. C'est à mon avis l'une des plus belles églises anciennes de Rome. C'est une église superbe, d'une sobriété, d'une beauté comme on les faisait dans les premiers siècles. Et ainsi, on dirait que Dieu conduit Jean-Baptiste dans cette ville de Rome, qui va être plus tard le lieu de son apostolat de prêtre auprès des plus pauvres. À Rome, donc, il fait ses études au fameux collège romain. Ses professeurs, ses camarades, ont l'impression de revoir en lui Saint-Louis de Gonzague, qui s'est sanctifié dans ce même collège romain. Jean-Baptiste ne s'aperçoit pas qu'on l'admire. Il est indifférent à tout ça. Il s'efforce plutôt, lui, d'imiter les bons exemples de ses meilleurs camarades de classe. Jean-Baptiste de Rossi arrive à l'âge de 16 ans et son père meurt. Il reste, lui, à 16 ans, le seul appui de sa mère et de ses sœurs, qui ont très peu de ressources, ce sont des gens très modestes, plutôt pauvres. Or, malheureusement, bien l'étude du droit lui sourit, comment faire des études de droit. Et pour entrevoir, d'ailleurs, comme il a du talent, une brillante carrière dans le monde, il pourrait aussi, de cette façon-là, apporter un peu d'argent, même pas mal d'argent, peut-être même la richesse à sa famille. Mais il se sent davantage appelé au sacerdoce, il est profondément appelé à être prêtre. Il sacrifie donc toutes ses espérances pour se consacrer uniquement à Dieu et aux âmes. Il en avertit d'ailleurs sa famille, sa mère, et sa mère, heureusement, accepte cet énorme sacrifice. Elle lui donne, avec joie même, son consentement. Et le jeune Jean-Baptiste de Rossi reçoit alors l'habit que doivent porter les séminaristes. Puis commence ses études de théologie. Dans sa grande ferveur, il ajoute malheureusement des mortifications excessives aux fatigues que lui donne une étude constante et sérieuse. Il n'écoute pas suffisamment, comme il va le reconnaître plus tard, les conseils, les ménagements de la simple prudence aussi, puis du simple bon sens. On lui conseille, mais il n'écoute pas. Beaucoup de jeunes sont comme ça. Ils font pas attention à leur santé. C'est grave à tenter à sa santé. La santé, c'est précieux pour pouvoir faire toutes sortes de choses. Et un jour, pendant qu'il assiste à la messe dans l'église de Saint-Ignace, ses forces l'abandonnent, puis il tombe évanoui. Grâce à des soins assidus, il finit par recouvrer peu à peu quelques forces. Mais à partir de ce jour-là, sa santé devient plutôt catastrophique. Il devient sujet à des attaques plus ou moins fréquentes, même d'épilepsie. Et son estomac délabré ne supporte plus qu'une nourriture très très légère. Et sa vie devient une longue suite de souffrances, finalement. Or, l'application à l'étude devient, à ce jeune séminariste Jean-Baptiste de Rossi, devient plutôt impossible. Il y a de la misère à étudier, puis au grand regret de ses maîtres, de ses professeurs qui l'aiment beaucoup et qui ont fondé sur lui de grandes espérances, il doit quitter le collège romain. Et il doit se contenter d'assister en simple auditeur au cours des dominicains à la Minerve à Rome, là où il y a le grand couvent des dominicains. Il vit dans cette épreuve une attention très délicate de Dieu, finalement. Il voit ça comme ça. Il pense que Dieu veut le détourner de l'orgueil, de trop d'études. Et de fait, il n'est jamais devenu ce que l'on peut appeler un prêtre érudit. Mais par la droiture de son caractère, par son humilité à prendre toujours conseil en cas de doute, et surtout parce que Dieu lui donne de lumière par la grâce, bien, tout se comble en lui petit à petit. Son ministère va produire bien plus de fruits que s'il avait cherché à devenir un prêtre brillant, savant, peut-être devenir un prêtre mondain, un prêtre très bien vêtu, un prêtre qui perd finalement l'essentiel de ce qu'il voulait devenir, un saint au service des fidèles. Et Saint Jean-Baptiste de Rossi, finalement ordonné prêtre, le 8 mars 1721, à 23 ans seulement, il s'engage par vœu, dès son jeune âge comme ça, à ne jamais accepter un bénéfice, c'est-à-dire des ristournes d'argent pour occuper un poste quelque part, ni une dignité ecclésiastique, il veut pas de ça. À moins d'y être obligé par obéissance, évidemment. Et toute sa vie, il va conserver cet amour de l'humilité et de la pauvreté. Il décide de modeler sa conduite sur les décrets du Concile de Trente relatifs à la vie et aux mœurs des clercs, des prêtres, des particuliers, évidemment. Il s'applique tout d'abord assidûment à l'oraison, la prière solitaire, la prière où, au fond, on se dit, je suis en présence de Dieu et Dieu me regarde. Et je le regarde intérieurement. Et j'attache mon attention intérieure à lui et à son amour. Ce serait peut-être la clé de la raison. Puis il s'occupe évidemment aussi de la récitation de l'office, des différentes heures de prière durant la journée. Des heures, c'est-à-dire des moments de prière, stipulés par l'Église dans des livres qu'on appelle, comme vous savez, le bréviaire. On appelait ça le bréviaire autrefois. Et son humilité, puis ses infirmités, parce que je vous ai dit qu'il était un peu malade, le porte à s'éloigner des emplois brillants, évidemment. Alors il recherche surtout les pauvres, les ignorants, ceux que le monde rebute. Et c'est là son monde, comme il dit son peuple. Il appelle ça mon peuple. C'est son expression. Il pénètre même dans les prisons. Et un prêtre, Sherbrooke, qui fait ça, vous savez, qui prénète dans les prisons, qui en parle beaucoup, on le voit parfois à la télévision. Un prêtre assez spécial, mais merveilleux. Et Jean-Baptiste de Rossi visite les criminels. Il va jusqu'à gagner à sa cause le bourreau, dont il se fait un assistant pour lui amener des prisonniers à convertir. Son apostolat le met donc au contact de toutes les misères. Et jusqu'alors, les filles qui mendiaient dans Rome n'avaient pas d'abri pour la nuit. Alors, pour les préserver, du vice, oui, c'est un vice, ou tout simplement, si vous voulez, de cette terrible déchéance, puis du malheur, finalement, bien, ils fondent à leur usage, à ces femmes, un refuge sous le nom de Hospice de Saint-Louis de Gonzague, qui est aussi enseveli à Rome, hein, ce jeune saint jésuite. Deux autres hôpitaux sont spécialement l'objet de ses soins, c'est ceux de Santa Galla puis de la Trinité des Pèlerins. Alors, revenons à son cousin, le chanoine Lorenzo di Rossi, ou Laurent de Rossi, qui l'a appelé à Rome, là, comme je vous ai dit. Mais ce chanoine insiste souvent auprès de lui pour se démettre en sa faveur du titre de chanoine qu'il a à Santa Maria in Cosmedine et qui lui rapporte un bénéfice. Mais l'abbé Jean-Baptiste de Rossi a toujours refusé. Cependant, à la mort de son cousin et sur l'ordre formel de son confesseur, il se laisse vaincre. Et alors il devient lui-même chanoine de Sainte Marie in Cosmedine. Mais il n'a jamais habité la riche maison que lui a léguée son cousin, non, non. Il la vend. Il consacre le prix de la vente en bonnes œuvres. Il se contente d'un simple et pauvre logis. Son séjour comme chanoine à Sainte-Marie in Cosmedine fait briller, si on peut dire, sa grande dévotion envers la Sainte Vierge. C'est le temps d'en parler dans ce mois de mai. Il attire à Sainte-Marie in Cosmedine le peuple romain par des neuvaines, par des fêtes. Puis sur leur l'initiative de leur nouveau chanoine, ben les vieux chanoines, eux, ajoutent à l'office divin là, le chant des litanies de la Sainte Vierge. Les avez-vous entendus chanter ce matin vers 6h30 au programme de M. René Barbin, le directeur des programmes de notre poste? On a chanté, les moines de Timadeuc ont chanté en latin les litanies de la Sainte Vierge. C'est très beau ces litanies, hein? C'est magnifique quand on y pense. Je vous en lis de brefs passages. Sainte Marie, priez pour nous, et Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de la Divine Grâce, Mère très pure, Mère très chaste, Mère sans tache, Mère toujours vierge, Mère aimable, admirable, Mère du bon conseil, Mère du Créateur et Mère du Sauveur, Vierge très prudente, Vierge vénérable, Vierge digne de louange, Vierge puissante, pleine de bonté, fidèle, et on lui donne des titres d'un surréalisme merveilleux. Miroir de justice, siège de la sagesse, cause de notre joie, vase spirituel, vase d'honneur, vase éminent de piété, rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin, salut des infirmes, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens. Puis là, ces titres de reine, reine des anges, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges, de tous les saints. Reine du Très-Saint-Rosaire, reine de la paix, etc. C'est superbe. Alors les chanoines se sont mis à réciter en latin, j'imagine évidemment, les litanies des saints. Mais après une très grave maladie, l'abbé de Rossi est invité à prendre du repos, convalescence, chez un évêque fort vénérable qui s'appelle Tenderini. Il va donc à Civita Castellana et pendant ce séjour, bien l'évêque l'engage à commencer à confesser parce qu'il s'est toujours refusé à exercer ce ministère très difficile de la confession, hein, du sacrement de la réconciliation, comme on dit aujourd'hui. Alors, il s'est tenu éloigné du confessionnal, par humilité, chose étrange. On avait de drôles de conceptions, c'est une autre époque. Mais heureusement, grâce à cet évêque, on pourrait dire que Dieu lui ouvre une nouvelle carrière, et ça va être la plus fructueuse de sa vie. Alors de retour à Rome, il s'adonne à ce ministère, très difficile comme je vous dis, avec un zèle infatigable. Il aime surtout à diriger les pauvres, les malades, les abandonnés. Alors là, l'église collégiale de Santa Maria in Cosmedine, où il est chanoine, est bientôt fréquentée par une foule de pénitents. Il en vient non seulement de tous les quartiers de Rome, mais aussi des campagnes environnantes, là. Et ses prédications sont simples, sont pleines de chaleur, comme celles du curé d'Ars. Ses prédications ont le don de toucher les cœurs, puis de convertir les âmes. Jean-Baptiste de Rossi, ce saint merveilleux, ce saint prêtre séculier, prêche plusieurs missions, c'est-à-dire des espèces de retraites dans les diocèses voisins de Rome, mais c'est surtout dans la ville éternelle, dans Rome, que l'on reçoit les bienfaits de sa parole de vrai prêtre. Et enfin, son zèle s'étend à la direction des religieuses et surtout des membres du clergé. Et ses relations avec ses confrères prêtres, ses prédications à ceux qui se préparent au sacerdoce, ou les retraites qu'il prêche aux prêtres même, lui donnent une bonne influence sur le clergé de Rome. Et on peut dire qu'il l'a presque transformé. Et les 6 dernières années de sa vie sont très douloureuses. Il y a des attaques de sa terrible maladie qui devient de plus en plus fréquente, ces attaques. Puis un dernier accès qui finalement lui fait passer de ce monde à l'autre monde, le ciel. Il entre dans la lumière de Dieu le 23 mai 1764, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il a 66 ans. Il est enterré à l'hôpital de la Trinité des Pèlerins, dont il s'occupait, et qui doit faire les frais de ses funérailles tant il est mort dans la pauvreté. Saint Jean-Baptiste de Rossi est inscrit au nombre des bienheureux par Pie IX, le 13 mai 1860, et au catalogue des saints, par Léon XIII, le 8 décembre 1881. Mais je voudrais vous parler un peu brièvement du curé d'Ars, dont la fête est célébrée le 4 août. Il est né près de Lyon le 8 mai 1786, puis il avait été ordonné prêtre, dans des circonstances difficiles, à 29 ans, le 13 août 1815. Et il a été curé d'Ars pendant près de 42 ans. Ça a été une influence incroyable. Qui se fait même encore sentir dans la paroisse qu'il a sanctifiée. Ces mortifications, que ça nous rappelle Saint Jean-Baptiste de Rossi, par lesquelles le curé d'Ars se réjouissait de pouvoir achever en sa chair, disait-il, ce qui manque aux souffrances du Christ pour l'Église. J'ai toujours de la difficulté à comprendre ces choses-là. Ça, attiré, malgré tout, et c'est là que ça m'émerveille, les bénédictions divines sur son apostolat. Et nombreuses ont été les âmes qui ont eu recours au curé d'Ars. Ça venait de partout. À certains jours, on dit que le curé d'Ars passait jusqu'à 16 heures dans son confessionnal. Alors il est mort le 4 août 1859. C'est Pie XI qui l'a canonisé en 1929. Il est le patron du clergé. Or, qu'est-ce qu'il disait, le curé d'Ars, du prêtre? Il posait la question un jour, « Qu'est-ce que le prêtre ?» Il répondait, « Un homme qui tient la place de Dieu. Un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. Allez, dit notre Seigneur au prêtre, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, instruisez toutes les nations. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. » Et le curé d'Ars continue en disant, « Lorsque le prêtre met les péchés, il ne dit pas « Dieu vous pardonne ». Il dit « Je vous absous ». À la consécration, il ne dit pas « C'est le corps de notre Seigneur ». Il dit « Ceci est mon corps ». Qui est-ce qui a mis notre Seigneur là, dans ce tabernacle ? C'est le prêtre, ajoute le curé d'Ars. Qui est-ce qui a reçu votre âme à son entrée dans la vie ? Le prêtre. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage ? Le prêtre. Qui préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ, dans l'âme, dans l'amour même de Jésus-Christ ? Et le curé d'Ars répond, « Le prêtre, toujours le prêtre, et si cette âme vient mourir, qui la ressuscitera ? Qui lui rendra le calme et la paix à mourir spirituellement ? Encore le prêtre ? Vous ne pouvez vous rappeler un seul bienfait de Dieu sans rencontrer à côté de ce souvenir l'image du prêtre. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. Le prêtre, c'est toujours le curé d'Ars qui parle, le prêtre ne se comprendra que dans le ciel. Si on le comprenait sur la terre, on mourrait. Non de frayeur, mais d'amour. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui. Il n'est pas pour lui, il est pour vous. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Je trouve que c'est terriblement vrai. Tout s'explique chez Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, par la conscience la plus haute qu'il avait d'être le curé, et pour Saint Jean-Baptiste de Rossi, d'être un prêtre, c'est-à-dire d'avoir la responsabilité réelle de chacune des personnes dont l'évêque lui a donné la charge. Un paysan, avec ses paysans d'Ars, il est là pour les conduire à vivre comment ? Selon l'Évangile. C'est une tâche épouvantable. Vivre selon l'Évangile. Dans un texte de l'abbé Naudet, qui exerçait la plus grande partie de son ministère à Ars même, il s'est attaché beaucoup au curé d'Ars qui l'a précédé, et il écrit, le curé d'Ars était un homme de petite taille, 1,58 m. avec une stature assez forte. C'était un paysan au début de sa vie, physiquement très solide. Dans le pays demeure une tradition qui rapporte que le curé d'Ars avait dressé seul une grande bannière qu'habituellement deux hommes relevaient, car le montant et le cadre en étaient en fonte, c'est-à-dire en métal très, très lourd, hein, la fonte. Et son séminariste dit qu'un jour, il l'aidait à nettoyer, à repeindre l'église. Un clou était à ôter. Le séminariste dit, « Je cherche un marteau. »« Ce n'est pas la peine, » dit le curé d'Ars. Et avec son pouce, il enfonça le clou. À la fin de sa vie, évidemment épuisé par le jeûne, puis le service des pèlerins, puis les veilles, il se traînait, mais il a tenu jusqu'à un âge avancé, sans beaucoup de soins médicaux. C'est sûr qu'on a voulu faire du curé d'Ars un pauvre d'esprit, un pauvre homme sans grande intelligence. C'est tout à fait faux. Jean-Marie Vianney, c'est un esprit très fin. Il voit très vite clair dans un problème embrouillé. Mais il n'est pas un intellectuel et surtout, il n'y a pas de mémoire. Et cela se comprend très bien. Comment aurait-il pu développer sa mémoire? Il est né en 1786, comme je vous ai dit tout à l'heure, au moment où il aurait dû aller à l'école. C'est la grande révolution française qui commence en 1789-90, c'est tout ça. Puis il n'y a plus de professeur à Dardilly dans son village. Aussi, il n'a appris à écrire. À quel âge? À 17 ans. Il a appris à écrire à 17 ans, le curé d'Ars. À 19 ans, on lui demande de faire du latin. Mais c'était fini avant de commencer. Il n'a jamais pu apprendre son latin. Il a dû dire sa messe en latin, rester son bréviaire en latin, le pauvre homme. D'où toutes ses difficultés pour faire ses études au grand séminaire, puis la réputation de pauvre sot ou d'imbécile qu'il a dû porter auprès de bien des gens. Mais Dieu le voulait prêtre, qu'il soit extraordinaire. Puis il est parvenu, vous le savez. Puis un jour, il a été nommé à Ars. Ars, au début de ce siècle très difficile, siècle du 19e siècle, il vivait, au sortir de la Révolution, dans un climat évidemment d'agressivité puis de vengeance. Hein. Les gens se divisaient, il y avait des monarchistes qui voulaient rétablir le roi, des bonapartistes qui voulaient être fidèles à Napoléon, puis des républicains qui voulaient rien de tout ça. Il semble que le curé d'Ars soit resté assez fermé à toutes ces questions politiques. Il se situe ailleurs. Mais il vit dans cette ambiance dès son arrivée en 1818, et l'idée qui l'a guidé dès le début et qui l'a imposé, c'est quoi? C'est qu'il est le curé. Comme on dit aujourd'hui, le pasteur. C'est-à-dire qu'il est au service de tous, puis chargé de tous. Et cette conscience d'être le curé explique chez le curé d'Ars, ça explique tout. Y compris certains accents de sa propre vie spirituelle. Il a un centre de pensée et d'action. Vous devinez bien ce que c'est que le centre de pensée puis d'action de ce curé. Hein? Il disait, il faut atteindre ces gens et leur donner Jésus-Christ. Leur donner quelqu'un. Je suis là pour leur donner Jésus-Christ, disait-il. Mais comment? Et c'est là que le paysan intelligent qu'il est va se révéler. Il s'est dit, ce sont des paysans, il faut que je trouve le moyen de leur donner Jésus-Christ à travers du concret, puis selon leur mentalité. Alors, au lieu de leur donner Jésus-Christ avec un enseignement théorique, puis des leçons sur la vie intérieure, puis des lectures de textes ennuyants comme la pluie, comme on en entend dans une très grande partie de nos églises, ça devient épuisant à écouter. Il va faire passer, lui, l'idée fondamentale que Jésus-Christ est présent dans le village, donc avec eux, au milieu d'eux. Et tout son enseignement va tourner autour de cette idée simple. C'est très simple, prêcher au fond, me semble. Jésus est matériellement dans le village. Il a une maison. Sa maison, c'est l'Église. Il y réside en permanence dans l'Eucharistie. Et de là, deux choses. L'abbé Vianney va d'abord s'en convaincre lui-même. Se convaincre lui-même que l'Église, c'est la résidence la maison de Jésus. Mais il va organiser son temps en fonction de cette présence eucharistique. Pas facile, hein? Curé d'Ars aimait lire. On ne sait pas habituellement qu'on a dénombré 400 ouvrages dans sa bibliothèque, ce qui est considérable pour un curé de campagne après la Révolution. Il a appris à lire tard, mais il lisait chaque jour quelques pages des pères de l'Église ou des auteurs spirituels. Il aimait en particulier les œuvres de saint Jean d'Avila. Il avait lu ses lettres à un curé de saint Jean d'Avila. Et ce saint Jean d'Avila commence par demander à son curé d'avoir une vraie vie spirituelle. Une vraie vie spirituelle, une vie de prière. Saint Jean d'Avila dit que l'oraison la plus simple, c'est la conscience de la présence perpétuelle de Dieu en lui. Mon Dieu, tu es en moi. Je suis en toi. Et nous sommes inséparables. Oui, mon Dieu, nous sommes inséparables. Saint Jean d'Avila dit que l'action la plus simple et la plus importante est d'en persuader les fidèles dont il est chargé. Et l'Esprit Saint a voulu que ce soit pour le curé d'Ars le trait de lumière qui va guider toute son action de curé. Alors à 4 heures du matin, il bondit du lit. Ce n'est pas très tôt pour les gens de cette époque, hein, on se levait à ces heures-là. On se levait très tôt, on se couchait très tôt. Une chandelle, ça coûtait de l'argent. Et on se couchait avec le soleil. On se levait avec le soleil ou même avant. Et le curé d'Ars avait un gros avantage. Il avait besoin de très peu de sommeil. 5 heures lui suffisaient. À la fin de sa vie, il dormait à peu près 3 heures. Il disait, si j'avais 3 heures de sommeil, je sauterais comme un jeune cheval. C'est-à-dire qu'il dormait encore moins que 3 heures. 2 heures et demie, 2 heures. Peut-être un homme assez nerveux aussi, toujours en mouvement. Hein? Et combien de travaux matériels il a fait de ses mains. Curé d'Ars n'arrêtait pas, sauf pour la prière puis les paroissiens. Et les gens, les foules, au fur et à mesure des années, ont pris toute la place. Sauf toujours la prière et notamment sa demi-heure d'adoration au pied de l'autel avant de célébrer sa messe. Chez les franciscains du boulevard René Lévesque, si vous venez à la messe là 5 heures le lundi, le mercredi ou le vendredi, vous verrez le franciscain, le prêtre, revêtu de ses ornements, déjà assis au chœur. Longtemps avant que la messe commence, et qui pratique son oraison, et qui prie comme le curé d'Ars. Ça se fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, à 5 heures, ça va se faire à 4 heures et demie, quoi. Et c'est ainsi que le sculpteur Cabuchet, vous savez, on voit souvent, il a pu le saisir, le curé d'Ars à genoux, les mains jointes, puis le regard extasié fixant le tabernacle. Vous avez déjà vu des photos de cette statue. Alors à 4 heures du matin, donc le curé d'Ars saute du lit, puis il allume sa lanterne. Et un jour, l'allumette est projetée dans les rideaux du lit. C'était le début des allumettes, hein, c'était des énormes allumettes. Alors il commence à mettre le feu à la literie. Puis au lit, alors qu'il était déjà à l'église. Alors là, les grands rideaux, d'ailleurs, tombaient le long de la cheminée. Le démon, qu'il appelait le grappin, étant déjà intervenu avec fracas dans sa vie, le bruit a couru que le diable avait mis le feu à son lit pour le tuer. Le curé d'Ars répondait toujours avec brièveté et humour sur ces questions-là, et puis ne prenait pas la peine d'expliquer ce qui se passait. Ce jour-là, il a eu cette répartie. Le grappin n'a pas pu attraper l'oiseau, alors il a mis le feu à la cage. Il avait cet humour étrange. En bref, on peut dire que ce saint curé d'Ars, muni sa lanterne, se rend donc à sa petite église, est vraiment très petite. Hein? C'est tout petit, là, l'église de d'Ars. On est obligé d'en construire une autre. 20 mètres sur 5. Il n'y a pas de chapelle, pas de clocher. La Révolution est passée par là. Hein? Et le petit chœur de 3 mètres est très très court. Le curé d'Ars se jette au pied du tabernacle et reste là de longs moments. faisant son expérience eucharistique personnelle. Il parlera de ce qu'il a vécu. Je crois que sa prière a été une prière d'une intériorité puis d'une intensité extraordinaire. Mais il va commencer par faire ce que nous faisons tous, penser un peu à Dieu, lui parler. Et au bout d'un moment, comme nous, il ne sait plus que dire à Dieu, alors il apprend à se taire. Puis il découvre que c'est la plus belle prière, se taire. Il dit, quand on ne dit plus rien au bon Dieu, mais qu'on sait qu'il est là, c'est la plus belle des prières. C'est ce qu'il aimait répéter. Et le curé d'Ars est très attaché à la très sainte Trinité. Il en parle peu, c'est sûr. Mais à la première page de son bréviaire, il y a une image de la Trinité. Et pourtant, l'accent principal de sa spiritualité, c'est le Christ adorateur de son Père. C'est exactement la véritable spiritualité chrétienne. Qu'est-ce qu'on fait à la messe? On s'unit au Christ adorateur de son Père, au Christ uni à son Père, au Christ qui ne fait qu'un avec son Père, un seul Dieu, dans l'unité de l'Esprit-Saint. Il est, le curé d'Ars, en cela, disciple de l'école française, dont je vous ai déjà parlé. Et comme Jésus est en lui, il n'y a qu'à le laisser prier, pas se joindre à sa prière. Il dit, quand nous prions, ce n'est pas nous qui prions, c'est Jésus-Christ qui prie en nous. Et c'est par Jésus qu'il vit son union à la Trinité. À propos de la vie des trois personnes divines entre elles, il a une très belle phrase. Les trois personnes de la Trinité se contemplent dans notre âme, comme dans un petit miroir. C'est touchant. Pour lui, la prière est donc le reflet de la Trinité elle-même. D'où cette formule qu'il va donner quelquefois à des pénitents au confessionnal. Vous ne pouvez pas dire au bon Dieu que vous l'aimez parce que vous n'en êtes plus certain. Eh bien, dites mon Dieu, vous m'aimez. Et là, vous êtes sûr d'être dans le vrai. Et ça va jusqu'au bout, jusqu'à l'infini. Dites-lui, mon Dieu, vous m'aimez. Et d'ailleurs, il parle plus de l'amour de Dieu pour nous que de notre amour pour Dieu. Pour lui, l'important, c'est de se laisser aimer par Dieu. Et à cette attitude spirituelle, il tenait beaucoup. Saint Jean-Marie Vianney, sans doute comme Saint Jean-Baptiste de Rossi, dont je vous ai parlé dans la première demi-heure et dont c'est la fête aujourd'hui, Jean-Marie Vianney, qui a une vie intérieure simplifiée parce que sa vie est très profonde, mais c'est un curé, un vrai curé, un pasteur. Sa hantise est de faire passer à ses paroissiens ce que Dieu lui donne pour eux. Mais comment s'y prendre? Ces femmes, ces hommes sont pris du matin au soir dans leurs tâches matérielles. Ils comprennent vraiment bien que le patois. Et quant à lui, il se souvient vaguement du patois de Dardilly, son village. C'est assez différent, ça change de village en village presque. Il se fait donc exprimer cette union à Dieu par un vieux paysan qu'il voit souvent au fond de l'église et pour de longs moments. Il lui tape un jour sur l'épaule puis lui dit, « Dites donc, père Chaffanjon, qu'est-ce que vous racontez donc tant au bon Dieu? » Puis le vieux père Jean-Louis lui répondit, « Mais rien du tout, monsieur le curé. On se regarde. » Et il ajoute dans le vrai patois d'Ars, « Je l'aveuse et il m'aveuse. » Aveuser a un sens très précis. Lorsque le paysan aveusait son champ, cela voulait dire qu'il en connaissait tous les contours et qu'il savait tout ce qu'il avait planté dedans. La formule « Je l'aveuse et il m'aveuse » prend toute sa profondeur. Elle signifie une transparence profonde, là. Une connaissance mutuelle, une volonté d'être entièrement ouvert à Dieu, puis le désir de le connaître en le contemplant. Et le curé d'Ars a reçu la bonne formule en patois. Il va s'en servir souvent dans sa prédication. Et c'est ainsi qu'il va expliquer à ses paysans ce qu'il fait si longuement devant le tabernacle et qui les intrigue. Ils s'abusent l'un l'autre. Ils se regardent. Il s'aime. Alors il parle de la présence de Jésus au tabernacle. Et cette présence de Jésus au tabernacle va devenir pour le curé d'Ars comme une obsession. C'est un thème qui revient tout le temps. Bien entendu, il ne va pas faire une théorie sur la transsubstantiation, mais il va leur dire qu'il est là, sous les apparences du pain, puis il monte en chair pour dire ce message essentiel. Si nous croyons davantage à la présence de Dieu, de Jésus dans l'Eucharistie, nous courions tous les jours à l'Eucharistie pour y communier, pour le recevoir, pour s'en nourrir, pour en vivre. Le bonheur est en Dieu et pas ailleurs. Il a fait toutes sortes d'œuvres sociales aussi, le curé d'Ars. Très proche de son peuple, il s'était rendu compte que les femmes travaillaient trop, il y avait une tâche harassante, sans aucun moment de repos. Alors, on disait qu'on ne travaillait pas le dimanche au champ, mais pourtant, à chaque messe dominicale, le curé protestait contre le travail des femmes le dimanche. Elles gagnaient quelques sous comme domestiques ce jour-là. Alors, le curé a tellement clamé contre ceux qui faisaient travailler les autres le dimanche, que les hommes du pays ont fini par dire à leurs femmes de rester à la maison dimanche. Et cela s'est su dans les environs. Et les femmes des autres villages ont exigé la même chose. Et le pauvre curé d'Ars s'est trouvé à la tête d'un mouvement revendicatif. Et on l'a accusé d'être un révolutionnaire, de s'occuper de ce qui ne le regardait pas. Il était engagé. Et on en est arrivé à débaucher, dit-on, 6 ou 7 hommes d'Ars pour aller le trouver. Puis le prier au nom de beaucoup d'autres de quitter Ars. Ni plus ni moins. Mais l'abbé Vianney leur a répondu, « Je suis là par la volonté de mon évêque. Allez lui demander mon déplacement si vous le jugez bon. » Alors on a compris qu'on n'obtiendrait rien par ce genre d'intimidation. Alors on a décidé de l'achaler autrement. On s'est mis à lancer des ordures sur ses fenêtres, à placarder ses affiches injurieuses sur sa porte, à pousser une fille qui venait d'avoir un enfant hors mariage à aller sous ses fenêtres pour crier qu'il pourrait bien s'occuper de l'enfant s'il avait fait ce qu'il lui avait fait, etc. Toutes sortes de folies. Et le curé d'Ars a souffert beaucoup moralement de tout cela. Mais la calomnie n'a pas duré et la vie du Saint-Curé était beaucoup trop transparente. Alors, ce qu'a été l'attitude profonde du curé d'Ars vis-à-vis de cette famille qui l'accusait d'avoir donné un enfant à sa fille, on l'a su à la fin de sa vie, car cette famille a eu beaucoup de déboires. Et comme on lui en parlait, il a répondu, « Ah, comme j'ai prié pour elle. » Et voyant l'étonnement, il a dit, « Mais c'était mon devoir, elle avait dit tant de mal de moi. » Et ce fut lui qui est allé trouver le comte des Garets pour qu'on dépanne cette femme. Tant elle était dans la misère. Il savait ce qu'il prêchait. Ce qu'il prêchait, c'est ceci. Il faut aller jusqu'au bout de l'amour. C'est le résumé de sa vie. Il y a de très beaux livres qui paraissent sur les prêtres. J'en ai comme prêtre pour quelle mission? Je parus chez Bellarmin il y a moins de 10 ans. Ou prêtre, métier sans avenir, de Jean-Guy Pagé. Puis j'ai toujours de l'anneau d'or, l'homme de Dieu, paru il y a bien longtemps. Puis le prêtre de toujours, une série d'articles très intéressants. J'aurais pu vous parler de tout ça. Mais je ne crois pas que ce soit bien nécessaire. Le curé d'Ars se disait, « Accordez-moi la conversion de ma paroisse. » Seigneur, je consens à souffrir ce que vous voudrez tout le temps de ma vie. Si j'avais su en arrivant à Ars tout ce que je devais y souffrir, je serais mort sur le coup. Alors pensons à nos curés, à nos prêtres, qui souffrent souvent beaucoup de notre bêtise, de notre manque de foi, de notre absence, de notre irrespect, de notre manque de sollicitude à leur égard.